faire la différence.
Bientôt 15h04, là-bas si j'y suis, c'est tout de suite avec Daniel Mermet.
Salut, là-bas si j'y suis, c'est Brice de Perpignan. Ben, en fait, j'ai votre numéro enregistré sur mon téléphone. Et puis, ben, j'ai fait une erreur, je voulais appeler une copine. Et puis, je tombe sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Donc, j'en profite pour vous faire des gros bisous. Et puis, voilà, je vous écoute toujours, je laisse rarement des messages. Mais voilà, j'ai été pour faire coucou, quoi. Merci pour tout, à plus tard.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG, c'est Eliane de Haute-Soir. Je voulais remercier Bernard-Henri Lévy d'avoir aidé à libérer la Libye. Je voulais le remercier au nom des femmes. Le divorce va être interdit, la polygamie acceptée. Est-ce pour ça que vous vous êtes battu? Je vous en remercie au nom des femmes.
Je trouve qu'à France Inter, vous parlez beaucoup trop des pays arabes. Mais vous parlez jamais des problèmes socio-économiques qui sont gigantesques dans ces pays-là et qui sont, à mon avis, le seul et grand problème de ces pays. Votre seule obsession dans les médias, c'est l'islam. C'est tout le temps la même chose. L'islam, les islamistes, pourquoi pas les musulmanistes, tant qu'on y est. Voilà, les Tunisiens vont voter. Ils vont voter pour un parti islamiste. C'est hallucinant, mais ça les regarde. C'est leur problème. Et si ce parti-là ne leur convient pas ou s'il ne fait pas ce à quoi eux, ils attendent des réponses, eh bien, ils le vireront comme ils ont viré l'ignoble Ben Ali. Et puis, c'est tout. Ça sert à quoi de rabâcher toujours la même chose? C'est fini, la colonisation. Il faudrait que les gens se décolonisent l'esprit quand même, et surtout les journalistes. Hein.
Bonjour, Daniel. Comment tu vas en Tunisie et tu ne fais pas interviewer Ben Sedrine? Cette dame, elle est très bien parce que c'est une référente, en fait, qui a de la distance par rapport à tous ses partis et par rapport à tout ce qui se passe. Mais par contre, c'est une vraie militante des droits de l'homme et pour la vraie démocratie. Donc, on aimerait bien l'entendre dans ton émission. Merci beaucoup. Ciao.
Brave Tunisien, vous avez dégagé Ben Ali malgré nous. N'est-ce pas, mame? On vous a rien dit, on vous a laissé faire. Mais là, il faut pas déconner, vous n'allez quand même pas voter librement pour qui vous voulez. Merde! Vous n'avez pas le droit de choisir librement et nada. C'est des musulmans, des islamistes, les pires ennemis de W. Bush. Vous n'allez pas voter pour eux. Non. Vous allez voter comme nous, on va vous dire de le faire. Merde, faut pas déconner. Oh, c'est pas possible ça.
Merci pour tous vos messages qui nous arrivent ici à Tunis. La Tunisie est devenue, vous le savez depuis hier, le pays des doigts bleus. Hier, les élections étaient un succès, 90% de taux de participation. Depuis le fin fond du pays, les Tunisiennes et les Tunisiens sont venus voter dans le moindre petit bureau de vote à travers le pays et ils ont mis, c'était le symbole, l'index dans l'encrier d'encre noire et bleue à voter. Alors on va aller faire un tour dans les bureaux de vote aux alentours de Djerba, vers Zarzis. Djerba, ça dit quelque chose aux Français, sauf qu'actuellement, la région est frappée par un marasme dans le tourisme très dur. Et puis ensuite, on reviendra à Tunis, on ira faire un tour dans les QG des partis politiques entre la fête, la déception et les spéculations fiévreuses quant à la suite des résultats qui seront proclamés, dit-on, pas avant mardi. D'ici là, encore quelques messages dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Rubrique rigueur, quand tu nous tiens. Jetons un œil sur les rémunérations pour l'année 2010 des dirigeants exécutifs des principales entreprises cotées en France. Source www.journaldunet.com. Michel Rollier, qui dirige la société Michelin, a gagné 12 328 euros durant chacun des 365 jours de l'année 2010. Bernard Arnault, qui dirige la société LVMH, en a gagné quotidiennement 10 958. Jean-Paul Agon, qui dirige la société L'Oréal, a reçu chaque jour 10 410 euros de rémunération. Christopher Wiebacher, dirigeant de la société Sanofi Aventis, n'a disposé, lui, que de 9 863 € par jour, tout comme son compère Maurice Lévy du groupe Publicis. Il faut attendre la 114e place pour passer sous la barre des 1 000 € par jour. Ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuelles attributions de stock options ou d'actions gratuites qu'il faudrait ajouter à ces rémunérations de base.
Bonjour, après le deuxième du mois, c'est ce mercredi, le dernier, que se retrouvent les auditeurs modérés et généreux de Vendée et d'alentour, à 20h, au Café Le Danube de Chalon. Sujet du débat sera la manipulation des masses à la lumière des éclairages de Chomsky. Des exemples comme la com de Gaz de France, par exemple, « Youpi, je ne paie que ce que je consomme ».
Salut les AMG, une petite information concernant l'usine Honeywell de Condé-sur-Noireau dans le Calvados. C'est un fabricant de plaquettes de frein pour les véhicules français et européens en général. Avant, ça s'appelait Valeo, Ferrodo, la vallée de la mort avec l'utilisation de l'amiante. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Eh bien, ce groupe Honeywell a décidé de laisser mourir à petit feu cette entreprise. Et ils vont laisser sur le carreau, dans un an et demi, 326 familles. Après avoir été empoisonnées avec de l'amiante, les voilà sacrifiés sur l'autel du profit. Honeywell va s'installer en Roumanie, où ils sont déjà bien implantés. Inutile de vous préciser pourquoi ils le font. Donc, on a une réunion très importante à la préfecture mardi après-midi, le 25 à 15h. Donc, on compte sur vous pour venir manifester avec nous. Ce serait sympa de venir nombreux. Ciao, c'était Thierry de Condé.
Salut les AMG, le repère de Briouze dans l'Orne se tiendra le mercredi 26 octobre à 17h au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit. Le 26 à 17h à Briouze. Salut!
J'ai bien voté aujourd'hui. Donc voilà, c'est un moment historique. Ouais. Donc voilà, après 50 ans vivant ici sous la paix, sous la dictature et tout ça là.
Comment vous avez fait votre choix?
Mon choix, ça fait partie de ma religion, pour moi.
Ah, ok.
On est très contents, d'abord parce que c'est la première fois, et ensuite parce qu'on a vécu plus que 50 ans, toujours guidé.
Comment vous avez fait votre choix? Je
En lisant les journaux, en regardant la télévision et en discutant sur Facebook.
Ma grand-mère, elle était déjà là-dedans.
Oui.
Mais le monsieur, elle dit pour elle, tu mets ici les courroies. Elle dit pour lui, je vais ici, moi. Lui, il dit non, je vais ici. Ah, t'as vu?
Le gars lui a dit où elle devait faire la croix. Elle ne s'est pas laissée faire. Et vous savez pour qui vous allez voter?
J'ai choisi, je vais voter Nada.
Et Nada?
Et espérons que les prochains qui vont venir, là, qui vont nous gouverner, vont pouvoir nous donner du travail et donner du travail à tout le monde et que personne ne reste dans la pauvreté.
Salut, c'est Daniel Mermet, qui vend-il, là-bas si j'y suis, au pays des doigts bleus.
Flight number 2, arriving from...
Alors là, on peut parler d'effervescence, là. On peut parler d'effervescence ce matin. Dis-moi où on se trouve.
On se trouve à Zarzis, qui est une ville côtière du sud-est de la Tunisie, dans la région de Mednine et de Djerba.
Alors ici, il y a une chose particulière. Il y a beaucoup de tourisme. On n'est pas loin de Djerba. Les Français connaissent bien ces régions parce qu'ils y viennent depuis des années faire du tourisme. En ce moment, le tourisme ne marche pas très fort depuis la Révolution. Il y a ça comme particularité. Il y en a une autre. C'est qu'ici, il y a du commerce. Il y a beaucoup de commerce qui se fait avec la Libye. Du commerce, disons, un peu de la contrebande avec la Libye. Hein. Ce qui fait que ces deux facteurs, chute du tourisme et chute aussi du commerce avec la Libye, ça fait que les hommes jeunes, surtout, ont eu tendance à partir. Et les fameux Tunisiens qu'on a retrouvés à Paris dans des situations difficiles, même pour beaucoup, ils venaient d'ici. C'est
oui.
ça ?
Oui.
Et donc, l'une des activités, c'est aussi le transport des clandestins.
Oui.
Hein, ça c'est les passeurs, ici, c'est une activité.
Oui, et on a tort de penser que c'est qu'une activité mafieuse, comme disent les Européens. C'est des formes d'entreprise, de solidarité, de gens qui ont toujours immigré. Les gens de Zarzis ont toujours migré, il y a de fortes comores, etc.
Un exemple concret, il y a des gens de ma famille à moi, ils ont deux bateaux. Il y a quelqu'un qui vient lui dire, je veux chercher un groupe pour qu'ils partent. La personne, c'est 2000 dinars.
2000 dinars, c'est-à-dire 1000 euros par personne.
Pour lui, c'est
une fortune.
C'est une fortune et c'est une affaire. Il a essayé une première fois, une deuxième, une troisième. Il y a des gens qui ont gagné de fortune. Il y a des gens qui ont perdu leur argent, leur garçon, leur fils. Il y a même des exemples de mon quartier qui sont partis et le bateau il s'est noyé.
Toi, tu t'appelles comment ?
Je m'appelle Nager.
Nager ?
Oui.
Nager. Ce que tu nous dis, c'est qu'ici, du coup, il y a eu tellement d'immigration qu'il n'y a plus de garçons. C'est-à-dire que pour te marier, il va falloir que tu cherches.
Il faut que je fasse une demande avant 2 ou 3 ans. C'est dur, oui, c'est dur.
Alors, aujourd'hui, Nager, tu vas voter pour la première fois de ta vie.
Oui.
23 ans, tu vas voter pour la première fois de ta vie. Comme tous les gens qui sont autour de nous, c'est la première fois qu'ils votent de leur vie. C'est la première fois que la Tunisie vote de son histoire aujourd'hui. On l'a dit, on l'a répété, mais on le dit et on le répète.
Depuis l'indépendance, oui, c'est la première fois et qu'on n'a pas vécu ça avant.
Mais il y avait des élections avant.
Il y avait des élections, mais on n'a jamais même reçu une feuille de vote pour aller voir. C'était entre eux là-bas.
Oui, on sait qu'au temps de Ben Ali, tout ça a été absolument truqué, c'était une tricherie éhontée. Alors, là, tu sais ce que tu vas voter, tu t'es décidé quand ?
Aujourd'hui matin.
À ce matin, jusqu'à ce matin, tu ne savais pas si tu allais voter.
Pourquoi moi je suis venue ici ? Parce que je n'avais pas des idées claires, je ne savais pas pour qui j'allais voter. Et puis je vais voter pour quelqu'un aussi, je ne sais pas, ça va donner quoi à la fin.
Ça, c'est
parce
qu'il n'y
a rien de clair.
Ok, bon, eh ben, écoute, on va essayer de rentrer dans le bureau de poste. Il y a beaucoup de monde là ce matin. Hein.
Oui, en plus, moi je dois chercher où je peux voter.
Voilà toi, madame.
Le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ici, en Tunisie, c'est pourtant d'abord le doigt qu'il faut regarder. Hier, 23 octobre 2011, des millions de Tunisiens ont trempé leur index dans l'encre. Ils ont voté avec fierté, avec ferveur. Et le doigt bleu restera le symbole de cette page d'histoire. Et maintenant, regardons la lune. La lune en forme de croissant rouge du drapeau tunisien avec l'étoile rouge, l'étoile à 5 branches qui rappelle les 5 piliers de l'islam, mais qui pourrait aussi rappeler l'étoile rouge du communisme. Grand symbole, grands horizons, grands rêves d'avenir, mais d'ici là, la route est longue et semée des dures embûches, des réalités économiques et sociales. La route est longue et on se demande qui va conduire le camion. Alors on commence à avoir une petite idée. Le parti islamiste Narda serait largement en tête devant les démocrates, les laïcs et autres progressistes de tout poil et on irait ainsi vers une sorte de droite religieuse, conservatrice, néolibérale, un genre de pouvoir néocons version islamiste, face à un centre-gauche plutôt laïque, pas tellement moins libéral d'ailleurs, tout ça en simplifiant beaucoup et en laissant traîner ses oreilles dans les commentaires de toutes parts qui n'arrêtent pas. C'est une véritable ébullition permanente dans ce pays et c'est passionnant. Hier soir, je le disais, Tunis était très très calme, on s'attendait à une fièvre, une effervescence, pas du tout. Les Tunisiens étaient tous devant leur télé à suivre les commentaires et les analyses. Et les seuls endroits animés, eh bien, c'était les QG des partis politiques. Et c'est là qu'on va aller faire un tour. D'abord au siège rutilant de Narda, le parti islamiste. Et puis ensuite, on montera à pied les 6 étages du QG du CPR de Moncef Marzouki, le parti de Moncef Marzouki. Et puis, on ira au PCOT, le parti communiste des ouvriers tunisiens, le parti du très respecté Hama Amami. Donc, une heure au pays des doigts bleus.
انا تونسيه بور اوريجينال نهز الدراكو بلادي الفوق انترناسيونال نحب نوصل صوت بلادي للعالم الكل الناس الكل تعرف اللي صوت التونسي يوصل احلى النورد افريك احلى الميديتيراني صافي 50 سنه المراه في تونس اللي باغي نحب ولاد بلادي ينساو اللي فات رجال ونسيب ديو مستقبل البلاد يبني مستقبل جديد ما فيهوش ظلام اللي حابين عليه ان شاء الله ما يبقاش كلام جا الوقت اللي كل واحد فينا مسؤول خويا احكي اللي تحب كل عندك ما تقول حرية التعبير حرية الاختيار هوني تعيش كيما تحب مدامك ولد الدار بتنساش تيلي ميت خطرنا مسلمين اليوم التوانسة في العالم الكل معروفين
أنا تونسية فيير دو ميت
جارد توجور لا تيت هوت جابخون دو مي فوت بور لو ميور جو فوت
أنا تونسية فيير دو ميت
جارد توجور لا تيت هوت جابخون دو مي فوت بور لو ميور جو فوت
Je sais qu'on pourrait faire le bon choix pour l'avenir. Blady mérite qu'on lutte pour le faire grandir.
Diversité,
liberté,
fraternité,
fraternité,
égalité,
égalité,
la liberté.
Toujours la tête haute, j'apprends de mes fautes. Pour le meilleur, je vote.
Ils ont attendu, parfois très longtemps, pour glisser leur bulletin dans l'urne.
Euronews, 24 octobre 2011.
Les Tunisiens étaient appelés à s'exprimer librement et c'était la première fois. Ils ont répondu en masse. Plus de 90% de participation, selon la commission électorale, pour élire une assemblée constituante. Une fois élue, l'Assemblée constituante devra produire une nouvelle constitution, mais aussi désigner un gouvernement intérimaire en attendant les élections législatives et présidentielles. Des enjeux cruciaux pour le peuple tunisien, visiblement ému par ce suffrage. Les résultats doivent être annoncés mardi après-midi.
Alors on va parler un peu avec les dames. Ah, il faut parler aujourd'hui. Voilà les dames, elles veulent bien parler. Bonjour madame. Bonjour madame, alors vous avez voté ou vous allez voter ?
J'ai déjà voté.
Vous avez déjà voté ?
Oui.
Alors vous avez le doigt. Alors vous avez porté un gant noir.
Oui, le gant noir avec.
Mais à travers. Il y a un trou dans le gant noir, regarde.
Oui.
Il y a un trou dans le gant noir et à travers le trou, on voit le doigt que vous avez voté. D'accord. Qu'est-ce que vous espérez de ce vote ?
J'espère beaucoup de choses. D'avoir un nouveau pays, un pays développé, un pays démocratique. J'espère bien voir un nouveau pays.
Ouais.
Parce qu'on était auparavant avec une seule partie et nous n'avons pas le droit de parler, de dire tout ce que nous voulons dire.
Je peux vous demander pour qui vous avez voté ?
Eh, pour la Haraka, Nahda, Inch'Allah.
Vous avez voté Nahda, vous aussi, madame ?
Oui, vous... Parti islamique, c'est notre religion, c'est notre civilisation, c'est nos histoires, c'est tout, c'est notre vie. Voilà, c'est pour cela qu'on a voté pour ces partis.
D'accord. Là, vous portez le voile toutes les deux. La dame, elle porte le niqab. C'est ça que vous portez. Hein.
Oui.
Ça, pour nous, c'est synonyme. En France, c'est des choses qui font très peur aux Français. Hein. Le voile, le niqab, etc. Les Français disent, oh là 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 là, ça c'est synonyme de...
C'est les médias occidentaux qui déclarent la guerre. C'est sur le niqab, sur la religion, c'est tout ce qui est islamique sans comprendre l'islam. Si vous connaissez l'islam, vous défendez l'islam même meilleur que nous. T'as compris ? Si vous connaissez l'islam.
Ouais.
Alors tout le monde parle l'islam. L'islam, c'est... Il nous fait de la peur, c'est terroriste, c'est quoi ? C'est tout. Il n'y a rien de tout. C'est là, c'est le média occidental. Et derrière eux, c'est le média juif.
Oula !
Oui, c'est ça, il faut le dire. Hein. Il faut le dire, il faut être franche. C'est le média juif qui s'intègre dans tous les côtés de la société occidentale. Qui fait apparaître le musulman ou la femme musulmane comme terroriste, et c'est pas vrai. Il faut parler avec les femmes voilées pour comprendre pourquoi elles portent le voile. Pourquoi pourquoi nous portons le voile.
Alors on peut vous le demander, pourquoi vous portez le voile, vous portez un niqab, pourquoi? C'est nouveau en Tunisie quand même, le niqab.
Ce qui est différent entre nous, vous, c'est la foi. On croit à Dieu, on croit à Dieu. Pour moi, c'est vous parler avec une femme, c'est pas vous parler avec mon corps, non? Je porte le voile et je m'attache à mon voile. Si quelqu'un qui veut parler avec moi, il va me respecter moi-même, c'est pas mon corps.
Donc le voile, c'est du féminisme?
Oui.
C'est ça que vous êtes en train de me dire. Porter le voile, c'est du féminisme?
C'est ça, mais aussi, je suis obéant à l'ordre de Dieu. Au Coran, charia.
La charia?
Oui.
Mais est-ce qu'on peut allier la charia et la démocratie?
Bien sûr. On connaît la démocratie depuis 1400 ans avec le prophète Mohammed. C'est lui qui est le premier qui a fait la démocratie. Ça fait 1400 ans. Si vous retournez à l'islam, si quelqu'un qui veut connaître l'islam, il va trouver que la démocratie a été trouvée avec les musulmans depuis 1400 ans.
Donc il ne faut pas s'inquiéter, la charia c'est possible avec la démocratie.
C'est normal.
Ok. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes enveloppé là, le garçon s'est enveloppé dans le drapeau tunisien. Pourquoi ?
Eh, في بالي مي باش جايين ننتخبوا هذه المره الوحيده جات في حياتنا وجايين باش ننتخبوا فرحانين الناس الكل.
C'est la première fois qu'on vient voter, on est content.
عندنا 50 عام هذه الانتخابات ما نحلموش بها.
Depuis 50 ans, on rêve même pas de venir un jour voter.
واليوم معناتها زي العيد الناس كلها وجايين باش ننتخبوا في بالي حتى اللي ما قيدوش اليوم قيدوا ما شاء الله الناس كلها جات والناس كلها انتخبنا.
Et c'est comme une fête pour nous. D'ailleurs, même ceux qui ne sont pas inscrits, nous, on est venus ici, on s'est inscrits aujourd'hui.
Au dernier moment, jusque-là, vous n'étiez pas inscrit.
Au dernier moment, par SMS, on s'est inscrit.
Et vous savez pour qui vous allez voter? Vous avez choisi?
J'ai choisi, je vais voter Nada.
Et Nada?
Regarde son doigt. Tu vois ton doigt?
Ah,
l'index,
ça y est.
Ça sur le trempe dans l'encre pour pas aller voter deux fois, on a le bout du doigt tout noir, c'est ça?
C'est mieux de faire comme ça.
C'est le pays des doigts noirs. Il y avait les pieds noirs, maintenant c'est les doigts noirs. Vous avez une organisation impressionnante, hein. On fait le tour un peu des parties là. Il y en a un qui est au sixième étage mais sans ascenseur. Il y en a un autre, ils font enjamber les poubelles. Il y en a un autre, c'est au fond d'une cour et sans moyens. Là, vous, il y a un immeuble flambant d'éclairage, il y a une magnifique tribune éclairée, des vidéos partout, une tente, enfin c'est impressionnant. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu comment?
Alors, Ahmed Travelsi, je suis militant du mouvement Annada.
Ouais. Dites-moi un petit peu d'où vient ce luxe-là.
Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça c'est du luxe ou pas. On a une équipe de militants qui a monté ça toute la journée, qui a installé...
Mais ça, c'est votre building?
Non, c'est une location, le loup. C'est pas.
Ah d'accord, c'est pas encore à vous.
Là, vous avez parlé des moyens pour répondre rapidement à cette question. Effectivement, c'est le premier parti, ou du moins, c'est ce qu'on nous dit. C'est un parti où il y a énormément de militants. Donc, c'est normal que c'est un parti qui dispose de moyens, qui soit à la hauteur de ses moyens. Mais non.
Enfin, c'est pas seulement les militants qui financent le parti, quand même.
Eh bien, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, c'est les militants.
Et ah bon, mais il y a peut-être des militants qui sont très riches et qui s'appellent le Qatar ou...
Ah bah parce que je sache, ils ne militent pas avec nous, non.
Le financement est assuré par les militants.
Je vous l'assure.
Oui, non, mais militants, ça peut être des hommes d'affaires très riches. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont inquiets de la montée de Narda, de son très probable succès, et qui disent oui, bien sûr, Narda a un discours très rassurant, Narda a été très héroïque pendant toutes ces années, il y a eu tous ces martyrs, on va parler de la probité, de l'honnêteté des militants de Narda et du mouvement Narda, etc. Mais on dit c'est un double discours, vous savez très bien ça, c'est un double discours, ils sont très rassurants en façade, mais par derrière... Il prépare l'avènement de la charia, etc. C'est une des inquiétudes des médias français. Hein ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Moi, je dis tout simplement que ce soit Nada ou un autre parti, Il y a une seule garantie pour la liberté, c'est la volonté du peuple. Ce dont on a besoin aujourd'hui en Tunisie, avant même un gouvernement, quel que ce soit, c'est une société civile qui soit assez forte pour toujours lutter contre toute forme de dérive liberticide. Parce que les militants de Nahda ont subi toutes ces atteintes à la liberté, y compris la liberté de travailler, les libertés de penser, les libertés de s'exprimer. Et là, vraiment, j'y tiens énormément. C'est l'unique garantie, c'est le citoyen tunisien.
Oui, mais enfin, il va y avoir une constituante. On aimerait bien que la garantie soit inscrite dans la Constitution.
La garantie, c'est un État qui soit basé sur la transparence. Donc nous, ce qu'on voudrait rajouter dans le premier article de la Constitution, c'est indiquer que le régime politique qu'on souhaite avoir, en tout cas ça sera la proposition de Nahda, c'est un régime républicain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on souhaite un régime parlementaire pour rompre définitivement avec le régime présidentiel. Le régime parlementaire ne permet pas de donner le pouvoir à un seul homme. C'est une assemblée, c'est un groupe, c'est un ensemble de personnes.
Aujourd'hui, on a fait un tour dans les bureaux de vote. On a parlé avec tout un tas d'électrices et d'électeurs qui étaient absolument... C'est un grand moment, évidemment, pour la Tunisie, pour tout le monde. Chacun sortant avec son doigt, son index trempé dans l'encre noire. Et on a rencontré une dame qui votait pour Nahda, qui nous a dit, nous, ce que nous voulons, nous militons pour l'avènement de la charia. C'est la charia qui a inventé la démocratie. Il y avait la charia avant la démocratie. Et qui nous a dit, de toute façon, le monde est inquiétant parce qu'il y a les médias, et les médias sont tenus par les juifs. Et finalement, c'est les juifs qui dirigent le monde. Alors, ça m'a semblé quand même un discours un peu inquiétant. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Écoutez, vous êtes tombé sur une dame, etc.
J'espère.
Écoutez, réellement, moi, je ne sais même pas comment est-ce que je dois commenter ça. En tout cas, ce n'est pas notre discours. Le premier combat, en tout cas, pour les militants de ce parti, ça a été le combat de la liberté. Alors, toutes les dérives sont possibles. Ce n'est pas la question. Encore une fois, l'ultime garantie, c'est le citoyen, la citoyenneté, la société civile. Et je pense qu'en Tunisie, on se dirige vers ce chemin.
Vos détracteurs mettent très souvent l'accent sur la condition des femmes. Oh là là, avec ces gens-là, c'est la femme voilée, c'est la femme avec une burqa, c'est la femme qui disparaît, qui verra sa place en tous les cas réduite dans la société. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de répondre à cet argumentaire ?
Que moi, très sérieusement, j'y réponds même plus, mais je dis tout simplement qu'il faut aller au-delà de ce débat qui pour moi est trop cliché. Je pense qu'il y a des problématiques. La femme tunisienne souffre de réelles problématiques. Je parle de problématiques d'éducation, je parle de la santé, je parle de l'emploi, je parle d'inégalité, je parle de salaire, je parle de vie professionnelle. C'est de tout cela que je parle.
Il y a une hésitation pour ce qui concerne Nahda. C'est qu'on se souvient des années 70, vous n'étiez pas né, où il y a eu un soutien d'intellectuels et d'une partie de la gauche, notamment en France, pour le mouvement islamiste iranien. Il y a eu un soutien à Khomeini, et puis on sait ce que l'Iran est devenu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une inquiétude là-dessus, de se dire, est-ce qu'on ne risque pas d'assister aux dérives auxquelles on a assisté concernant le mouvement iranien ? Vous allez me répondre, soyez sans inquiétude, il y a les militants.
Non, c'est même pas ça, je vais répondre autrement. Je veux dire qu'il n'y a absolument aucune comparaison possible entre l'Iran et la Tunisie. On n'est même pas du tout dans la même démarche intellectuelle. On n'a pas du tout la même vision de la société. Donc je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible. Bon. C'est un peu... Vous me parlez de la gauche. Est-ce qu'on peut comparer le Parti communiste français à Pol Pot ? Non. Est-ce qu'on peut comparer le Parti communiste ou le Parti socialiste, la gauche française à la gauche soviétique ? Non, il n'y a pas de comparaison possible.
D'accord. Alors, on dit, rassurez-vous, Nahda a pour modèle le gouvernement turc actuel.
Oui, a pour modèle, non, mais c'est un exemple. C'est un exemple de réussite, c'est un exemple que nous regardons de près. D'ailleurs, pas que nous, il faut savoir que si toute l'Europe regarde la Turquie qui arrive à avoir toujours une croissance très soutenue, je pense que voilà. Il y a un contexte tunisien, on essaye tant bien que mal d'apporter, rétablir une stabilité politique, une stabilité économique dès que possible. De toute façon, ce n'est pas Nadec qui gouvernera elle seule. On aura toujours besoin d'un consensus pour que les choses se passent au mieux. Dans cette période de transition démocratique, on a besoin de tous les Tunisiens, toutes les forces vives, toutes les bonnes volontés pour construire une Tunisie stable de demain.
Une dernière question, j'aurais dû commencer par celle-là, c'est justement l'économie. Depuis 9 mois, il y a toute cette effervescence formidable que vous vivez, mais il y a aussi que l'emploi se dégrade et l'économie se dégrade. Quel est votre projet là-dessus? On dit, avec Ennahda, pas de souci, Ennahda continue la politique néolibérale et a donné toutes les garanties de ce côté-là.
Oui, parce qu'on évolue dans un contexte mondial où on ne peut pas se passer du FMI, on ne peut pas se passer de la Banque mondiale, on ne peut pas se passer des relations avec l'Europe, on ne peut pas se passer des investissements, des aides qui viennent de l'étranger. Donc il y a une contrainte économique. Étant donné que Nada est un mouvement responsable, réaliste, pragmatique, qui prend en compte tous ces éléments, donc oui, il y aura une continuité dans certains points. Au moins, ce qu'on souhaite, c'est un nouveau modèle de développement qui laisse une place pour où on mettrait l'humain au centre du système économique et non pas la finance.
Merci pour votre leçon. Merci beaucoup. Merci pour votre petite leçon. Merci beaucoup. On est toujours dans cette cour d'école pour ce vote historique. La Tunisie vote pour la première fois aujourd'hui. Et voilà, à ma droite, les hommes sous cet immense palmier dattier, les hommes qui font la queue à droite, les femmes à gauche. Et chacun ressortira de ce bureau de vote avec un doigt noir, l'index noir, l'index trempé dans l'encre. Ça, c'est la preuve qu'on a voté. Et c'est aussi le moyen pour pas qu'on y retourne. Et voilà, c'est la Tunisie vote pour la première fois de son histoire.
Moi, normalement, je suis inscrit en France. Et je suis revenu ici pour des raisons personnelles. Donc, j'aurais fait encore une inscription ici. J'ai bien voté aujourd'hui. Donc voilà, c'est un moment historique. Ouais. Donc voilà, après 50 ans... vivant ici sous la peur, sous la dictature et tout ça là. J'étais un ancien dans ce lycée là. J'ai passé mon lycée ici.
Et après, vous étiez là quand vous étiez gamin.
Voilà. J'ai eu des activités politiques ici. J'étais condamné pour 10 ans de prison en 1991 pour des appartenances à un mouvement politique non légal.
Lequel?
Ennahda. Et après, je me suis exilé en France et j'étais réfugié politique pendant 20 ans là-bas en France. Et je rentre ici en Tunisie. La première chose, quand je suis rentré en Tunisie, hein, je ne vois plus la photo des dictatures, je ne vois plus la photo... Voilà, c'est la chose qui m'a vraiment impressionné. Donc, et là, aujourd'hui, c'est un moment historique. Parce que c'est la première fois qu'on a des élections vraiment légales et loyales, hein, avec une organisation vraiment, elle était un peu dire, mais l'organisation vraiment, elle était très très bien. Donc voilà.
On est le matin là.
C'est pas fini, mais c'est bien parti. Donc je pense que ça va être une très 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 belle expérience. Comme on dit, on a commencé, nous, les Tunisiens, et ça sera le début, j'espère, pour la Libye, pour la Syrie, Yémen, l'Égypte, qui vont suivre, c'est le même schéma.
Merci. Comment vous appelez?
Abdelazak.
Comment vous vous décidez? Comment vous avez choisi? Comment vous avez fait votre choix?
C'est ma réflexion, c'est ma pensée.
Ah, d'accord.
Je ne prends ni l'avis de celui-là, ni de celui-là. C'est moi qui décide toute seule. Et, bon, j'ai obéi, ils m'ont dit, mets ton doigt dans l'encre. J'ai mis mon doigt dans l'encre. Et je suis venu et j'ai fait, hop, ma croix à côté du poisson.
Ah, la croix à côté du poisson.
Ma grand-mère.
Ma
grand-mère, pardon.
Oui.
Ma grand-mère, elle était déjà là-dedans.
Oui.
Mais le monsieur, elle dit, Poral, tu mets ici les croix. Elle dit pour lui, je vais ici, moi. Lui, il dit, non, je vais ici. Ah, t'as vu? J'ai fait je discutais avec lui, il m'a dit non, sorte à l'extérieur, toi. Hein? Le monsieur, le grand là, qui est à la salle C numéro 6.
On se pose des questions.
Non, car nous, depuis longtemps, depuis Kevin Ali, ici, on est comme ça, perfect.
Ouais.
Non, on ne joue pas.
Oui, n'empêche qu'elle est rentrée dans le bureau de vote et le gars lui a dit où elle devait faire la croix. Elle ne s'est pas laissée faire. Mais il y a quand même le mec, le grand, qui lui a dit « tu dois mettre la croix là-bas ».
Il y a quelqu'un apparemment qui a essayé de l'influencer.
Ouais.
D'influencer son vote.
Ouais.
Et son petit-fils estime ou suppose que ça doit être Ennahda.
Ah.
Et l'autre, il dit « il y en a marre, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une connerie, vous le mettez sur notre dos, sur le... »
Ouais, ouais, ouais. Alors, là, un soupçon d'influence. Le type qui tient le bureau de vote ou qui le contrôle aurait influencé et influencerait les personnes âgées qui viennent voter, qui ne savent pas tellement comment s'y prendre, qui ne savent pas lire forcément, en leur disant « tu fais ta croix ici ». Et voilà, et cette grand-mère, elle a résisté, on lui avait dit « tu mets ta croix à côté du poisson », elle l'a fait. Mais enfin, il y avait ce gars qui était à côté et qui lui conseillait de voter différemment.
وكانت حابة تمس وحشي صبعك كغاو سيستم كله مشاكل سيستم راهو مالوك بعوناه بصوابعنا سكرونا الفيسبوك كان عندك فيوزيبل حطو ما بيسقيك على خاطر السيستم الضربة نتاعو ايك ما تمسش السيستم لا يا دربك الضو اي 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 وكانت حب تمس وحشي صبعك كغاو ما تمسش السيستم لا يا دربك الضو اي 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 وكانت حب تمس وحشي صبعك كغاو.
Moncef Marzouki, alors les soirées électorales, c'est toujours très élégant, toujours très pétillant. Il y a du champagne et des petits fours. Alors là, je ne sais pas s'il y a du champagne et des petits fours.
Non.
Voilà, alors en tous les cas, c'est l'attente, c'est la fièvre, c'est la tension. D'abord, c'est le plaisir, parce que le taux de participation est très élevé.
Il y a deux choses qui, moi, me rendent extrêmement fier. Premièrement, la campagne électorale a été extrêmement passionnante et pacifique. Il n'y a pas eu de mort de couleur d'affiche. Hein. Il n'y a pas eu de bagarre de couleur d'affiche. Ça s'est parfaitement bien passé dans tout le pays. Il y a eu des centaines et des centaines de meetings. Les Tunisiens ont débattu de façon intelligente, etc. Donc, la campagne électorale était déjà un premier signe. Et ensuite, le deuxième signe, et maintenant, c'est le taux de participation absolument extraordinaire. Donc, entre 80 et 90%, ça ne s'est jamais vu. Moi, j'ai fait 3 heures de queue sous le soleil. J'ai vu des femmes âgées, des hommes en béquille, etc., faire la queue dans la joie et dans la convivialité. Et pour moi, ça, c'est un signe important de maturité démocratique.
Ça, c'est déjà une réussite.
Oui.
Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, me résumer votre parti, ce que vous voulez, quel est votre projet ?
Très rapidement, un gouvernement d'union nationale, de mettre l'ensemble des partis politiques sur des états généraux du chômage, les états généraux de l'énergie, les états généraux de la réforme de la justice, etc., pour faire un espèce de brainstorming massif sur la dette, sur la situation de l'économie, etc. À partir des états généraux, mettre en place des plans structurels et des plans d'urgence pour sortir le pays du marasme dans lequel il est. Donc un gouvernement d'union nationale et parallèlement faire adopter par le peuple une constitution. Nous disons que le processus d'appropriation de la Constitution est plus important que l'écriture de la Constitution. C'est-à-dire nous voulons que ça soit un long débat, un débat approfondi entre les Tunisiens, que ça prenne du temps, de telle façon que les Tunisiens s'approprient cette Constitution et non pas ils la reçoivent comme ça, parachutée d'en haut.
Le premier souci de la presse française, c'est Ennahda. C'est la montée de l'islamisme. Je voyais le Figaro qui dit « élection tunisienne, percée islamiste, percée de Ennahda ». Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous inquiète ? Quelles sont vos relations, vos rapports avec Ennahda ? Comment vous voyez cette montée de ce parti islamiste.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'aveuglement de la presse française et, je dirais, des intellectuels français. C'est ça ce qui m'inquiète, parce que, ayant vécu longtemps en France, je sais comment ça fonctionne. Je suis vraiment atterré par la façon dont... je veux dire que les Français, ils ont eu tout faux jusqu'à présent, puisque pendant des années, ils nous ont serinés et ils ont été convaincus qu'il y avait un danger, c'est que dans nos pays, ça soit une révolution islamiste. Et que le meilleur garant, c'est des dictatures. Bon, c'est vrai que c'est des dictatures, mais en fin de compte, ça vaut mieux que des dictatures islamistes. Et moi, j'avais écrit un livre en 2009 intitulé « Dictateur en sursis » où je disais « Attendez, c'est pas comme ça que ça va se passer, ça va être des révolutions, mais ça serait des révolutions démocratiques, et les dictateurs sur lesquels vous pariez, ils vont tous tomber les uns après les autres. » Et aujourd'hui, toujours dans toujours la même doxa, toujours la même façon de raisonner, la peur de l'islamisme, etc. Ces gens-là refusent de voir la réalité sociologique de ces pays, à savoir qu'il y a des forces démocratiques, que les forces démocratiques sont très importantes, que le phénomène islamiste lui-même a pu être digéré par la démocratie, par les forces démocratiques, que l'islamisme est un spectre très large, qu'il existe une partie du spectre dans Ennahda qui est capable de jouer le jeu de la démocratie, etc. Je veux dire, la complexité et le dynamisme de la vie de nos régions est complètement occulté, et vous restez encore une fois dans ces antinomies extrêmement simplistes, où il y a d'une part les laïcs et d'autre part les islamistes, les bons et les mauvais, et moi j'appelle mes amis français à très très rapidement changer de doxa, sinon ils vont être complètement largués.
Quand on dit « Ah oui, mais Ennahda a une façade rassurante, démocratie, droits des femmes, etc. » Mais il y a un double langage pour vous.
Les gens ne se rendent pas compte que l'islamisme, c'est un spectre très très large qui va d'Erdogan au Taliban, et qu'ils n'ont rien de commun. Et que de la même façon qu'il y avait un spectre communiste qui allait de Berlinguer, donc l'Italien réformiste, à un assassin fou comme Pol Pot, eh ben, le spectre était très très large. Pareil pour l'islamisme. Il y a des islamismes dans le monde arabe. Et cette complexité des islamismes et cette dynamique de l'appropriation d'une certaine fraction de l'islam, de l'appropriation de la démocratie, la démocratisation de l'islam et l'islamisation de la démocratie, tous ces phénomènes qui sont complexes, qui sont réels, qui traduisent la dynamique de la vie, tout cela est occulté par des approches idéologiques bidons, superficielles, artificielles, qui font encore une fois que les Français sont à côté de la plaque pour l'analyse de ces phénomènes. Moi, alors que je suis un francophone et un francophile, je me sens de plus en plus proche plutôt de la pensée anglo-saxonne, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus modeste, beaucoup plus travaillé sur le plan des factuels. Moi, j'invite mes amis français à très très rapidement, encore une fois, adopter des nouveaux outils d'analyse, sinon, encore une fois, ils vont rien comprendre au Maghreb.
Vous avez les résultats quand mardi ?
Mardi, mais on commence déjà à avoir des tendances. On sait que Ennahda sera le premier parti. On espère que le nôtre, le Congrès pour la République, sera le troisième ou peut-être même le deuxième. J'espère bien le deuxième. On sait à peu près comment les choses vont se présenter. On commence déjà à se positionner pour le futur, etc. Donc voilà, il va falloir faire avec. Il va falloir que les Français acceptent qu'il y ait un gouvernement en Tunisie dans lequel il y a des islamistes. Et puis ça ne sera pas la fin du monde.
Alors là, c'est beaucoup plus classique. Hein. Là, c'est le vrai bureau de vote. Toujours à Zarzis. L'école du 2 mars.
Qui est dans le centre-ville de Zarzis.
Zarzis.
Et les gens sont en train
de... C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de Djerba, dans une zone à la fois touristique, une zone de commerce et une zone d'émigration, on va dire, une zone d'exil. Et là, c'est le bureau de vote de l'école. Et là, il y a deux queues. Il y a la queue des hommes à ma droite. Il n'y a que des femmes. Il y a beaucoup moins de femmes, tu as vu, hein, tout de suite.
Oui, alors que dans les autres bureaux, il y a plein de femmes. Mais on est à l'heure du déjeuner.
Ah.
Donc je pense qu'il y aura une majorité de femmes tout à l'heure. Parce qu'il y a une majorité de femmes à Zarzis. Étant donné que la plupart des hommes partent comme émigrés. Et qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes.
Alors, bonjour. Vous êtes content alors de voter ?
Ah oui, hein ? Très, très content.
Alors, c'est la première fois de votre vie que vous faites la queue pour voter.
Oui. Maintenant, c'est la démocratie dont on parle à l'Europe, à l'Occident et partout. C'est ça, la démocratie, la vraie démocratie. On est très contents. D'abord, parce que c'est la première fois. Et ensuite, parce qu'on a vécu plus que 50 ans, toujours guidé. Maintenant, chacun peut entrer, il peut faire un croix devant la partie dont il veut, les gens dont il en a confiance. Et c'est ça, c'est qu'on attend, alhamdoulilah, qu'on est arrivé à ces jours-là.
C'est un grand moment.
Oui, c'est un grand moment.
Alors vous allez ressortir de là avec le doigt noir.
Avec le doigt de henna. On dit.
Mais, ce soir, toute la Tunisie aura un doigt noir.
Oui, et toute la Tunisie est contente. On pense pour nos enfants avoir quelque chose, comme on voit à l'Europe, comme on voit partout, on voit quelque chose de bien, alors on veut avoir quelque chose de bien.
Comment vous avez fait votre choix? Je ne vous demande pas ce que vous allez voter, mais je vous demande comment vous avez fait votre choix.
Mon choix, ça fait partie de ma religion, pour moi.
Ah, ok.
Je vais avoir des gens qui donnent des confiances. Et ça, c'est ce que je veux.
Merci. Je vais voir avec les autres comment ils ont fait leur choix. Bonjour.
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 Bienvenue. Aujourd'hui, on va donner une leçon au monde entier.
Oh là, rien que ça.
Une leçon au peuple du monde entier. Hein? C'est une fête aujourd'hui en Tunisie.
Ouais. Comment vous avez fait votre choix, vous les uns et les autres, les hommes, là?
Pour moi, la licence sera terminée, la fête sera terminée, quand on trouve des visages révolutionnaires à notre conseil concessionnel.
Et comment tu reconnais des visages de la révolution?
Parce que je suis un visage de révolution.
Louis,
je sais c'est quoi, c'est qui mérite ma voix et mérite les voix du peuple. Pour moi, c'est la honte qu'on trouve des visages qui ont applaudi pour Ben Ali et maintenant qu'on trouve dans plusieurs listes.
C'est la honte. Ils sont tous révolutionnaires.
Non, oui. Oui.
C'est à cause de la révolution qu'on est aussi présent à cette élection.
Bien sûr.
Ah oui. C'est-à-dire, avant, toujours on trouve les listes qui ont été faites par le président et par les entourages. Mais c'est la première fois qu'on trouve la révolution. Et ça, c'est un mérite pour le peuple tunisien.
Voilà, pour finir ce tour des QG de campagne, des partis politiques tunisiens, à Tunis, on est au siège du PCOT, Parti communiste ouvrier tunisien, le parti de Amma Amami. Amma Amami est une figure très respectée en Tunisie. Il fait partie de ceux qui ont lutté contre Ben Ali, ce qui lui a coûté des années de clandestinité, de répression de toutes sortes. Dans la lutte contre Ben Ali, il est arrivé que le PCOT d'Amma Amami soit aux côtés de Narda, mais bien sûr, aujourd'hui, tous les opposent.
Rahbi, en 2002, la dernière interview que j'ai faite, c'était avec Daniel. Tu te rappelles,
hein? Mais bien sûr.
Oui. Et à la fin, il m'a dit, mais est-ce que tu es exactement maintenant? Mais tu es en clandestinité, parce que moi, j'appelais d'un taxiphone. En 2002.
Combien de temps t'as passé dans la clandestinité au total?
En total, un peu plus de 10 ans.
10 ans?
Oui, un peu plus, oui.
10 ans, les flics de Ben Ali t'ont recherché?
Il y a les flics de Bourguiba, puis les flics de Ben Ali.
Qu'est-ce que ça prouve? C'est que ces flics sont mauvais ou que tu es très bon?
Ce sont de mauvais flics, parce qu'ils sont vraiment nombreux, mais ils ne sont pas intelligents.
Oui, peut-être pas très convaincus.
Non, mais ils ont tout fait, surtout entre 1998 et 2002. J'ai passé 4 ans de clandestinité avec 3 autres camarades. Ils ont tout fait pour nous arrêter. Mais finalement, ils n'ont pas pu, tout simplement parce que, quand même, au niveau de la gauche tunisienne, on a une grande expérience de travail clandestin.
Il y a un moment où les flics avaient ton portrait avec une barbe, pas de barbe, chauve, etc.
C'est ça, oui, 24, c'est ça, oui. Ils avaient 24 portraits.
Et voilà, et puis le vent de l'histoire a tourné.
Finalement, l'histoire a donné raison au Parti communiste des ouvriers de Tunisie. Parce que pratiquement, on était les seuls à avoir continué à parler de révolution en Tunisie. Et nous avions confiance en ce peuple.
Est-ce que la révolution du 14 janvier est la révolution dont tu rêvais?
Pas totalement. Parce que j'aurais bien voulu que le peuple tunisien puisse finir d'une manière radicale avec le régime de Ben Ali. Malheureusement, Ben Ali est parti, certains de son entourage, mais son régime reste. Ben Ali est toujours là, dans l'administration, dans l'appareil policier, dans la justice, dans les médias, mais aussi la base économique et sociale de sa dictature est toujours là. C'est pour cette raison-là que le processus révolutionnaire, à mon avis, n'est pas fini encore.
Alors, il n'est pas fini encore. Là, on est en train de, vous êtes en train de vivre, et puis nous un peu avec vous aussi,
oui.
Une étape extraordinaire, c'est ces élections. Qu'est-ce oui. que tu penses déjà de cette participation?
Je crois que, c'est-à-dire, les Tunisiens ont bien assimilé cette étape. Et cette grande participation, d'ailleurs, qui n'était pas prévue, tout le monde a été surpris par cette participation massive. À mon avis, il y a des craintes qu'un parti, et surtout qu'un parti comme Nahda, puisse dominer la vie politique tunisienne et en quelque sorte dicter sa loi, surtout concernant cette nouvelle constitution.
Alors, on y revient, c'est quand même la laïcité et l'inquiétude face à la montée des Nahda, un parti islamiste qui, pour vous, représente une régression, une sorte de régression.
Oui, nous sommes des laïcs, ça, on ne le cache pas. Il faut dire que le PCOT, il est connu en Tunisie comme le parti qui a le plus lutté contre le mouvement islamiste en Tunisie, aussi bien sur le plan idéologique que politique et même pratique, au sein du mouvement des jeunes, au sein du mouvement syndical, partout, dans les cités populaires, même si, certainement, surtout les dernières années de Ben Ali, nous avons travaillé ensemble sur certaines questions qui relèvent de la lutte pour les libertés. Mais nous continuons à nous...
Vous avez lutté ensemble, le PCOT et NADA.
NADA, le PDP, le Forum, plusieurs autres partis, pour des objectifs communs, pour la liberté d'expression, la liberté d'organisation et pour l'amnistie générale. Parce qu'à un certain moment, de toutes les façons, tout le monde était concerné par ces revendications. Après le 14 janvier, il n'y a plus ce travail en commun, parce qu'actuellement, la question concerne le problème qui est posé, c'est un problème de projet de société. Or, sur ce plan-là, nous n'avons pas le même projet de société que Nahda, même si Nahda parle aujourd'hui d'état civil, non religieux, même si Nahda parle de respect des libertés, de la démocratie. Mais nous savons très bien que entre le discours et la pratique, quand même, il va y avoir une certaine fossé. Sur le plan économique et social, pratiquement d'ailleurs, tout le monde convient en Tunisie que le mouvement, ce que propose le mouvement Nahda, c'est une continuation de la politique économique de Ben Ali.
C'est, tout à fait, c'est-à-dire le néolibéralisme.
Effectivement, c'est le néolibéralisme. Et d'ailleurs, ils sont allés aussi bien en France qu'à Washington pour dire au gouvernement américain et français que nous n'allons pas changer de politique
économique
et sociale et que aussi les traités qui ont été signés avec l'Union européenne ou avec les États-Unis, ils ont bien dit qu'ils vont les respecter. Donc, en quelque sorte, un régime à dominance Nahda sera un régime Ben Ali, peut-être un plus ou moins réformé.
Avec le voile. Ben Ali avec un voile.
Ben Ali avec un voile, c'est ça, oui.
Donc vous avez encore du pain sur la planche, vous avez encore des luttes devant vous.
Ah oui, c'est pour cette raison-là que nous parlons de processus révolutionnaire. C'est pour cette raison-là que nous ne considérons pas que l'élection de cette assemblée constituante est la fin d'un processus. Non, au contraire, le processus va continuer et nous savons très bien qu'au sein de l'assemblée constituante, il va y avoir de vives luttes politiques, mais aussi dans la rue.
Aujourd'hui dans les urnes, demain dans la rue.
Aujourd'hui dans les urnes, demain au sein de l'assemblée constituante et dans la rue aussi.
Thank you.
à mamie qui monte sur une chaise.
Et là, il parle de la situation des élections en disant qu'il y avait encore des citoyens qui étaient devant le bureau de vote et qui ne savaient pas pour qui voter et qui posaient vraiment la question à qui je vais voter. Moi-même, j'ai assisté à ça, oui. Il faut prendre en considération ça. Le peuple tunisien n'était pas 100% prêt. Et ils n'avaient pas 100% la situation, on va dire la connaissance nécessaire de tous les partis. Et de plus en plus, on a des gens plus ouverts pour la politique et pour notre programme précisément. Notre poids par rapport à la constituante n'est pas déterminant par rapport à notre poids dans la société tunisienne.
C'était là-bas, si j'y suis, au pays des doigts bleus, un reportage de Daniel Mermet et Guy Van Kiel en Tunisie au lendemain des premières élections de l'histoire du pays. Merci à tous et à toutes. Merci à Monsef Marzouki, Ama Amami, Ahmed Trabelsi et Nagé. Merci à Antoine Chao pour le montage et Omeya Sedik pour la traduction. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis et sur le site la-bas.org à la technique aujourd'hui. Rémi Quincé, Pierrick Monsigné, à la réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer, assistante Marina Touyez et chef du répondeur Grégory Solomonovic. Le numéro de téléphone de là-bas, si j'y suis, le 01 56 40 37 37. MMA, c'est aussi le premier réseau social d'assurance pour les professionnels ?
Bien sûr. Moi, j'exerce une profession libérale et je me suis inquiété du niveau de ma retraite. Je voulais de vraies réponses.
Et alors ?
Zéro tracas. MMA l'a fait. Grâce au diagnostic personnalisé retraite MMA, j'ai pu constituer pour moi et mes collaborateurs une retraite complémentaire dans un cadre fiscal avantageux.
MMA l'a fait ?
Bien sûr. C'est qui les clients pro ?
C'est nous ! Zéro tracas, zéro blabla, MMA.
Offre soumise à condition.
France Inter et le Théâtre de la Bastille présentent Zombie Aporia de Daniel Linehan, l'un des talents les plus neufs venus des États-Unis. C'est une sorte de concert rock revu et corrigé par la danse, de l'énergie à l'appel et de poèmes aussi. Mais surtout trois danseurs en scène, Daniel Linehan, Thibault Lac et Salkar Dalrosengren. Zombie Aporia, au Théâtre de la Bastille, du 2 au 9 novembre, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations avec Dominique Delaroa, bonjour.
Bonjour. En Libye, le Conseil national de transition, qui s'est fait un peu prier par la communauté internationale, annonce la création d'une commission d'enquête sur la mort de Kadhafi. Selon le rapport d'autopsie, le colonel a été tué d'une balle dans la tête, version controversée. À Tripoli, Sébastien Logeni.
Muammar Kadhafi et son fils Mouattassim sont morts par balle. Voilà tout ce que l'on sait. Ce sont les conclusions officielles du médecin légiste qui a refusé d'en dire davantage. Son rapport, dit-il, n'est pas terminé. Il sera transmis au procureur général. Et toujours selon ce légiste, on pourra alors répondre à toutes les questions. Une enquête a même été ouverte. Alors voilà, beaucoup de bonne volonté en apparence, mais les zones d'ombre restent très nombreuses. Et une dernière vidéo montrant le fils Kadhafi ajoute encore à la confusion. On y voit Mouattassim, après son arrestation, assis sur un matelas au sol dans une chambre, le nez en sang, fumant une cigarette, buvant de l'eau. Le luxe, c'est terminé, espèce de chien, lui dit un militaire. Or, on sait par ailleurs que Mouattassim est mort par balle, au moins d'une balle dans la nuque, et qu'il aurait eu la main coupée. Tout laisse donc à penser qu'il aurait été exécuté après son arrestation, sommairement. Mais les autorités libyennes s'accrochent quand même à leur version. Kadhafi et son fils sont morts dans un échange de tirs au combat. On nous jure que rien ne sera caché. À Tripoli, Sébastien Logeni, France Inter.
Les secouristes turcs continuent de fouiller d'arrache-pied les décombres dans la province orientale de Van. Et le bilan du puissant séisme qui a frappé hier la région s'alourdit au fil du temps. 272 morts et plus de 1300 blessés. Une nouvelle action dans un bureau de Pôle emploi ce matin dans l'agence de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Un demandeur d'emploi menaçait de se suicider en se tailladant les bras avec un couteau. Il avait reçu une convocation dont la date ne lui convenait pas et voulait s'expliquer avec un responsable d'équipe. Hier, Christian Charpie, le directeur général de Pôle emploi, a annoncé le lancement d'une grande consultation interne sur la sécurité des agents face à des agressions en forte hausse, après notamment la prise d'otage du 17 octobre dans une agence parisienne. Et à Marseille, un Algérien interdit de séjour, après avoir purgé une peine de 15 ans de prison pour trafic de stupéfiants, a menacé de se suicider en se jetant d'une grue. Il a fini par se rendre après 2 heures de négociation avec les policiers. Les propriétaires ou les héritiers des parcelles de terrain où se situe la grotte Chauvet, qui abrite les chefs-d'œuvre de l'art préhistorique, vont devoir devoir se contenter des 760 000 euros alloués par l'État pour leur expropriation. Ils réclamaient plus de 13 millions d'euros et avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme. La réponse est tombée. La Cour estime qu'ils ont été raisonnablement indemnisés par l'État français.
7 semaines dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Bertrand Soulier,
des amis, j'en ai des tonnes, d'un peu partout, genre des tonnes.
Jeanne-Marie Attesta, Alexis HK, Renan Luce et Benoît Dorémus.
Thanks for the air, si tu n'as pas d'amis.
Avec également la participation exceptionnelle d'Anne Sylvestre.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04, à suivre Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Et bonjour Dominique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'espère que vous vous portez le mieux possible. Tout à l'heure dans mon quartier, je parlais avec un ami, il m'a cité Beethoven, il aime plutôt le rock'n'roll et des musiques plus sonores, mais il disait qu'il écoutait Beethoven à fond, du temps où il buvait. Et puis quand il a arrêté de boire, bah, il a arrêté d'écouter Beethoven. Alors c'est dommage, de devenir sobre ne doit pas empêcher d'écouter ce grand auteur, mais il est vrai que poussé à fond, Beethoven c'est peut-être un des plus rock'n'roll des auteurs traditionnels, classiques, romantiques. C'est vrai que la violence du personnage, sa force en général, son orchestration parfois tonitruante, bah, ça peut donner un effet assez métal, on va dire. Eh bien, un disque Beethoven vient de paraître, c'est Marie-Joseph Jude, qui nous propose 3 sonates pour le piano, et dans la sonate Appassionata, dans le final, on va entendre qu'elle a une tactique un peu différente, puisque dans cet allegro manon troppo, comme c'est indiqué, parce que souvent on dévale ce final à toute vitesse, eh bien, elle prend un peu son temps, elle chante avec beaucoup de chaleur, de rondeur, et c'est dans la fin seulement qu'elle nous assène les fameux coups beethoveniens. Et il y a une très belle phrase de Nietzsche, le fameux philosophe, il dit « Beethoven est le produit hybride d'une vieille âme agonisante qui n'en finit pas de mourir et d'une âme à venir et très jeune qui n'en finit pas de naître. Sa musique baigne dans le clair-obscur d'un deuil éternel et d'une éternelle espérance. »